les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans la librairie francophone, on vous emmène à La Réunion pour un reportage exceptionnel avec un grand dramaturge. Emmanuel Janvrin, créateur du théâtre Volard, est installé à La Réunion depuis la fin des années 70. Nous irons avec lui dans un lieu atypique au bord du lagon à Saint-Pierre. Le groupe sénégalais Daraji Family sort un nouvel album. C'est un événement musical en Afrique, mais aussi à travers toute la francophonie. Il est ce mois-ci dans la version télé de la librairie francophone. Nous vous en offrons un large extrait sonore pour la radio. Une séquence livre de poche avec Véronique Ovaldé qui raconte la fuite d'une mère avec ses filles. Un livre qui interpelle le lecteur. Et puis Eric Emmanuel Schmitt raconte son histoire personnelle autour de sa passion pour la musique et en particulier pour le piano. Un roman qui avait fait débat parmi nos libraires.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Un voyage à La Réunion pour commencer tout de suite cette émission. Avant de retrouver Emmanuel Janvrin, une recette avec Nanou d'un réputé petit restaurant de Saint-Pierre. On vous explique comment réaliser l'un des plats les plus emblématiques de l'île, le rougail morue.
Alors le rougail morue, c'est toute une histoire. Donc il faut déjà choisir une bonne morue, si possible des miettes de morue que je dessale trois fois à l'eau bouillante. Et ensuite, je la fais bien frire.
Que à l'eau bouillante, on ne met pas de lait, rien, on ne dessale pas dans le lait.
Eau bouillante. Trois fois, c'est important pour le dessalage. Et après, je la fais frire et je rajoute au fur et à mesure mes ingrédients, qui sont notamment, en premier lieu, l'ail. Je rajoute mon gingembre, que je fais aussi bien roussir. Ensuite, je rajoute les oignons, un petit peu de safran. C'est toujours la guéguerre. On ne met pas de safran dans les rougailles, mais moi, je suis désolée, j'ai toujours appris à cuisiner comme ça. Donc, je mets un petit peu de safran pays, attention à pays. Hein. Et ensuite, je mets mes tomates et que je laisse compoter, surtout pas d'eau. Il faut compoter, que les tomates fondent, les oignons fondent, enfin, que tout ce mélange se fasse et tout. Et ensuite, à la fin, j'éteins mon feu, je coupe des oignons verts pour donner de la belle couleur. Et si quelqu'un aime le piment, je mets du gros piment coupé en biseau, assez fin. Et voilà, le rougail morue, tout simple.
Et on s'adapte en fonction du pays où on est avec les ingrédients qu'on a.
Tout à fait.
Merci Nanou.
Et le safran pays dont nous parlions, c'est le curcuma de La Réunion, le meilleur du monde bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser tout autre curcuma. Le dramaturge et romancier français d'origine belge, malgache et créole, Emmanuel Janvrin, est reconnu à travers toute la francophonie. Il a choisi de nous emmener dans un lieu étonnant à Saint-Pierre. Voilà, sous le soleil de La Réunion, nous sommes à côté de l'ancienne gare de Saint-Pierre, juste à côté du lagon, c'est la magie de la radio. Bonjour Emmanuel Janvrin.
Bonjour.
Vous êtes auteur et dramaturge, vous avez fondé ici le théâtre Volard au Tampon, quatrième ville de La Réunion, sur les hauteurs de Saint-Pierre, pas très loin d'ici. Pourquoi vous avez choisi ce lieu avec cette ancienne gare qui est devenue un restaurant, c'est chic d'ailleurs?
Eh bien c'est parce que un des grands succès du théâtre Volard, ça a été une pièce ferroviaire. On prenait le train, un vieux train brinque-ballant, dans un tunnel pour emmener le public. Et les décors, c'était des wagons de chemin de fer. Et donc, en souvenir de cette époque, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas la gare de Saint-Pierre et puis son vieux wagon qu'on vient d'amener.
Alors, on va rentrer parce que là, on est sur un boulevard très fréquenté qui est en front de mer, l'un des boulevards principaux hein, qui peut nous mener à Saint-Joseph, même vers le piton de la Fournaise, pas très loin hein, quand on va vers l'est. Alors voilà, la gare, c'est une brasserie désormais et il y a une surprise à l'intérieur.
Eh bien, la surprise, c'est ce vieux wagon qui se trouve là-bas,
voilà,
qui a été amené il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un wagon qui vient de l'halte ferroviaire de la Grande Chaloupe. C'est là où nous jouions notre pièce de théâtre. On transportait les gens dans ce, notamment dans ce wagon-là. Et la pièce se déroulait sur des rails de chemin de fer. Et quand la scène se terminait, la locomotive arrivait, emmenait le décor. Enfin bon, tout ça était en musique.
Ah oui. Oui, c'était... Alors voilà, on a ce wagon-là qui est devant nous, qui est en restauration, hein, donc on ne peut pas aller partout. C'est un wagon bleu avec deux teintes de bleu, qui est un peu rouillé, il faut dire ce qui est. On peut entrer, mais juste au début. Accès wagon interdit, mais bon, on a l'autorisation. Allez-y, on a demandé quand même. Oula, oui, enfin, ouais, c'est... Ah oui, donc on voit toute l'ossature du train. Alors ça bouge un peu, hein. C'est vrai que là, on va faire attention pour pas leur abîmer leur restauration. Il y a un son particulier, alors c'est étonnant.
En jouant sur le sur ce petit train qui était un souvenir des Réunionnais, je pense qu'on a tapé juste et on a fait quoi jusqu'à 35 000 spectateurs. Je sais pas si vous
rendez compte. Ah oui, quand même, ouais. Alors c'est très étonnant parce que juste à travers la fenêtre, les fenêtres sont ouvertes hein, puisqu'elles sont cassées, on a le lagon, on voit la barrière de corail qui est juste derrière avec les rouleaux qui déroulent comme ça, qui défilent, et puis derrière cette brasserie et cette gare complètement rénovée, complètement repeinte avec un parterre, un jardin avec de l'herbe, c'est très bizarre d'être ici.
Eh ben, il y a un petit côté effectivement à la fois exotique et puis à la fois on est dans un univers ferroviaire, hein, donc qui est celui du 19e siècle à la Réunion des usines sucrières, parce que ces rails ont été construits en même temps qu'on creusait le port. Et il y avait je ne sais plus combien de dizaines d'usines sucrières et le chemin de fer servait à ramasser les cannes et partir avec amener le sucre au port.
Donc il n'y a plus de train sur l'île de la Réunion aujourd'hui.
C'est terminé. Alors il y a des projets, il y a eu différents projets qui ont malheureusement donné lieu à des bagarres politiques absolument inutiles. Mais il est certain qu'il y a beaucoup plus de voitures qu'il n'y a de routes actuellement et que ça s'aggrave.
C'est un vrai problème.
Alors maintenant, ils disent qu'ils vont faire le train. C'est l'étape suivante. Ça va être de rétablir un train, un tramway, un tram-train. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. La bêtise, c'est qu'on vient d'ouvrir celui de l'île Maurice, donc à côté, et que la Réunion surtout va en retard alors qu'elle aurait pu être devant. Voilà, c'est l'éternelle question entre les deux.
Bon, on va descendre parce que ça sent pas très bon. Hein. Il y a des espèces de lotion là, ça gratte un peu la gorge. Sans tomber, hein, Emmanuel. Voilà. Vous avez une analyse historique sur la Réunion et cela déborde d'ailleurs chez vous, que vous soyez dans le domaine du théâtre ou dans les romans que vous écrivez, ça déborde sur le reste de l'océan Indien. Dans votre roman Roxakai, par exemple, dont on avait parlé dans l'émission avec vous, il était question de la colonisation française de Madagascar par les Réunionnais. Donc vous élargissez un peu le champ, l'océan Indien c'est votre inspiration ?
Ben disons que pendant longtemps j'ai fait du réunionnais, je dirais, où les relations entre un peu névrotiques qu'il y avait entre l'île et puis la métropole, on l'appelle aussi la maîtresse poule, hein, pour vous dire. Et donc une fois que j'ai un peu exploré un peu tout ça, et puis ça tournait un petit peu en rond, donc je me suis dit je vais mettre la focale beaucoup plus haut. Et donc, disons que je suis monté dans les airs avec une fusée, et de là-haut, j'explore l'océan Indien et les relations entre les îles. Alors, ça me ramène à Madagascar, puisque dans ma famille, j'avais des liens et ça. Et ça me permet... Alors, j'ai commencé avec l'opéra, à établir des liens profonds avec Madagascar. Et là, je poursuis avec les romans. En fait... Pour beaucoup, ce sont des romans de voyage. Hein. On se balade d'île en île.
C'est un peu ça.
On explore. Oui, c'est un peu ça.
Bon, il y a un groupe qui est en train de répéter. On va les laisser parce que
dès que ça va partir, le sang va être complètement saturé. On va aller du côté du lagon, on va se retrouver sur le lagon avec vous, sur la plage, Emmanuel Janvrin. Vous avez écrit des dizaines de pièces qui ont été jouées à travers toute la francophonie, avec parfois, vous le disiez tout à l'heure, de gros succès, comme Le Père Vanche, pièce emblématique de votre œuvre. Vous avez eu un rôle éducatif en parlant de Léon Le Père Vanche, grand militant syndical et résistant qui a cofondé le Parti communiste de la Réunion.
C'est le moment entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie où les Dom-Tom auraient pu devenir indépendants, je dirais, comme l'île Maurice à côté, qui est devenue indépendante en 1968, et les Comores en 1975. Donc vous voyez, c'est une histoire récente tout ça. Madagascar, 1960. Donc dans cette période très agitée, évidemment, la France en fait a voulu garder un pied dans le coin, et c'est la Réunion.
Bonjour.
Bonjour.
Vous rêviez de parler dans un micro, c'est ça?
Ouais.
C'est quoi votre prénom?
G. Je peux chanter?
Si vous voulez, allez-y.
C'est pourquoi?
Pour la librairie francophone, la radio.
Tous les soirs, où les dans mon rêve, mille dans les votes et la nous voyage comme des cyanias. Baby, tous les soirs, où les dans mon rêve, mille dans les votes et la nous voyage.
Merci, bravo.
Merci
beaucoup. Voilà, une rencontre imprévue.
T'es loin de la lumière, Maya. T'es loin de pour garder.
Bon, Ambroise Vollard, parlons un peu d'Ambroise Vollard, Emmanuel Janvrin, alors qu'on se dirige vers le lagon, on va se retrouver sur la plage, on va s'asseoir quelques instants, on va essayer de respirer, on va essayer de transmettre aux auditeurs cette ambiance du lagon, cette ambiance de l'océan Indien. Ambroise Vollard, célèbre marchand d'art qui a contribué à faire connaître Cézanne, Picasso, Van Gogh ou encore Matisse, il était réunionnais.
Alors il était réunionnais et quand on a pris son nom, pour lui, voilà, pour en faire une troupe de théâtre. Et il n'était pas connu. Enfin, il n'était pas, c'était pas, il faisait pas partie du panthéon local. Donc c'est un petit peu nous qui l'avons mis en avant. Alors depuis, il y a des lycées, il y a des collèges qui s'appellent Ambroise Vollard. Alors il avait participé à l'almanach de 1900 avec Fagus. Donc il y avait Fagus, Vollard et Jarry. Et là, il y avait tout un tas de références à l'île de la Réunion qu'on croyait être des références à l'Afrique en fait. Et en fait, c'était des références à l'île de la Réunion. Pour nous, c'est un des Réunionnais qui amène les Réunionnais plus loin.
Qui amène les Réunionnais plus loin, c'est pas mal ça comme idée. On va s'asseoir sur le sable, si vous voulez bien. Le sable fait de morceaux de corail, tous les coraux comme ça qui sont projetés finalement sur cette plage et qui font le sable de la plage de Saint-Pierre avec des vacanciers évidemment autour de nous. En maillot de bain, nous on est habillés, mais on est là face à l'eau avec devant nous donc la barrière de corail. Vous entendez très probablement la mer derrière, assez calme aujourd'hui. Comment vous vous sentez, Emmanuel Janvrin, face à l'eau comme ça?
Bon, c'est vrai que l'île de la Réunion n'est pas maritime, je dirais. Traditionnellement, elle tourne le dos. Hein, à la mer, parce qu'il y a très peu de lagons, mais il y en a quand même.
Très peu de plages.
Oui. Il y a très peu de plages, mais il y en a quand même sur l'ouest, et c'est tout de même très très beau. Alors, au départ, les Réunionnais, il est rare de trouver des Réunionnais qui savent nager, par exemple, ce qui est curieux sur une île, mais enfin, c'est assez courant. Alors, bon, les choses changent maintenant, et peu à peu, la population s'est appropriée les plages, mais c'est surtout pour pique-niquer, en fait,
oui, c'est ça. Oui. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes dans l'eau. Alors déjà, bon, il y a cette histoire de requins où même au bord, c'est un peu dangereux, sauf ici. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas encore testé. Mais voilà, il y a un gros problème avec les requins ici, avec de nombreuses attaques. Certains disent que les requins sont nés ici, donc ils reviennent aux sources finalement de leurs origines. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça. C'est assez mal vécu hein, aujourd'hui.
On ne sait pas pourquoi les requins sont revenus. Il y a des gens qui disent que c'est parce que s'ils viennent, c'est qu'il y a à manger. Hein. Donc c'est peut-être par là qu'il faut regarder. Il y a toujours eu des requins aussi. Donc le problème, c'est pourquoi ils sont devenus agressifs comme ça et pourquoi il n'y en a pas à l'île Maurice. En fait, c'est peut-être un problème de communication, parce que semble-t-il que on mange des êtres humains à l'humoriste, mais ça ne se dit pas. Ou alors, ils sont, le gouvernement est suffisamment habile pour
le
cacher
dissimuler,
le truc.
Ouais, c'est ça.
Et la réunion est un peu stupide et finalement est devenue le lieu où on se fait manger par les requins. À mon avis, c'est pas plus qu'ailleurs.
Ouais. Bien, merci beaucoup, Emmanuel Jeanvrain. On va terminer face à ce lagon, face à cette mer très calme, quelques nuages qui commencent à arriver, une grande douceur, beaucoup de personnes en maillot autour de nous, et une sorte de grand calme.
En fait, l'île est en soubresaut, mais elle a toujours été. Je veux dire, c'est un moteur à explosion. Alors, ce calme-là, en fait, n'est qu'apparent. Donc, ouais. il faut toujours s'intéresser. Je pense que l'être humain est le même partout. Les injustices...
Voilà, et puis, il y a l'ouverture aussi. On a cette ouverture, et l'ouverture va vers le pôle sud. Il n'y a rien devant nous, là. On est au point le plus austral, et il n'y a rien devant nous.
Oui, il y a un arrière-pays hein, qui sont les Kerguelen, les terres australes. Et donc, on est dans une zone tout à fait particulière et relativement vierge, finalement. Cette zone de l'océan Indien est pleine d'avenir, pleine de promesses.
Merci beaucoup, Emmanuel. Votre dernier roman en date, Sabena, est paru chez Gallimard. Rock Sakai aussi, c'est chez Gallimard. Il faut lire l'œuvre d'Emmanuel Jeanvrain, y compris le théâtre. Merci, Emmanuel.
À bientôt.
À suivre, Véronique Ovaldé, le groupe sénégalais Daaraji Family, qui est dans la version télé de la librairie francophone en ce mois de février. On vous offre un extrait de cet entretien pour la radio, Daaraji qui sort un nouvel album, dont voici un extrait.
Yangi setu photocopy bangi photo profil doyul filtre sa xar kanam lim lamayu do ma sa don kenen topono bi moyul nenga da nga beug yok tar yok sa loxo benen avatar sa kanam first step ala une ci xibar clone bi yangi du nervous bi roy du ropi yow so bañe li nga don bu ko don kenen lamu don ay nga wara don do ko don sama ak ma dem ba yangi jang ci ko jeng toj nga sawnda bak reer yo bu ter je fi lu mumba bëgg jegi li la jagal legi lenen nga nga jegi fa nga joge nga remember it taking a sagay ñu xambi nga sa sagaru sutura indi ben nelu tele sa fulu digula ñaka fayda wesu wul ba sa dundu bëgg siru life kenen mete wundu
Raji Family avec Tech Tech dans la librairie francophone. Le groupe sénégalais Star International est sur le plateau télé de la librairie francophone en ce mois de février. Voici un extrait sonore de cet entretien avec une petite surprise musicale à la fin.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Et bonjour Fahda Freddy.
Bonjour.
Bonjour Ndong Godet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir, Fahda Freddy. Le nouvel album de Daraji Family donc vient de sortir. C'est un événement car vous avez un énorme succès au Sénégal, votre pays, mais aussi en Afrique, en Europe et en Amérique. Daraji est l'une des références de la musique hip-hop métissée depuis 1998. Vous êtes un groupe très engagé, très attentif aussi aux textes, aux messages humanistes, aux messages sociaux. Quel est le message de Daraji aujourd'hui, Fahda Freddy?
Aujourd'hui, le message de Daraji suit l'album qui s'appelle Yamatele. Yamatele, quand on était petit, c'est un personnage de dessins animés avec une télé sur le ventre.
Ouais.
Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est à force de marcher dans la rue ou même partout dans le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de Yamatele. On est tous là à porter un écran sur nous. Tout le monde est là sur son écran et parfois, on devient moins tactile et on oublie notre humanité. Et donc, raison pour laquelle on s'est dit, faut faire un album et puis en parler. Donc, on a choisi d'appeler cet album-là Yamatele parce que de nos jours, on est tous transformés en Yamatele.
Alors, vous avez parcouru le monde, vous avez croisé les cultures, vous avez été en échange avec toutes ces cultures du monde, Ndong Godet. Vous avez aussi produit plus de 1000 concerts. Vous avez été partout. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, Ndong Godet, de vous retrouver face à tous les publics du monde comme ça?
Ça nous a apporté beaucoup de choses, hein. Ça nous a apporté de l'expérience, mais aussi ça nous a conforté sur le fait qu'aujourd'hui le monde est, en tout cas le monde est vaste, mais le monde est aussi sous le pool de la musique et de l'amour, en fin de compte, parce que la musique elle vient casser les codes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on casse les codes. Et c'est des codes, que ça soit la politique, que ça soit...
Oui, c'est ça.
Voilà, etc.
Et puis c'est le pont aussi,
exactement,
entre l'Afrique et l'Occident.
Le trait d'union.
Le trait d'union. Et vous dites aussi que l'espoir, le retour aux sources, c'est très important. Parce que dans vos textes, vous expliquez à la jeunesse africaine que l'Eldorado occidental, c'est dangereux. Il faut aussi faire vivre son pays, il faut faire vivre le continent africain.
Oui, on nous a toujours... entre guillemets, vendu le rêve américain ou le rêve européen. Tout le monde le voit dans les capitales africaines. En fait, tous les jeunes rêvent, ils veulent partir. Et souvent, ils prennent des gros risques pour quitter le pays parce que socialement, ça va pas. Et je pense qu'avec le titre Diamono qu'on a mis dans l'album, avec un clip qui explique ce phénomène-là.
Ouais.
Donc c'est voilà, on reparle de cet Eldorado-là, mais dans l'autre sens, l'Eldorado africain.
C'est ça.
Qui est possible chez nous et qui est réalisé par pas mal de jeunes. Et il y a beaucoup d'exceptions dans ce sens-là.
Et Daraji, ça veut dire cette école-là en Wolof, Fahda Freddy.
Oui, effectivement, ça veut dire l'école de la vie.
L'école de la vie. C'est quoi? C'est l'école qui croise les origines sociales et géographiques?
C'est l'école de l'humanité parce que, en fait, je pense qu'il n'y a pas plus beau livre que l'humanité, il n'y a pas plus beau voyage que l'humanité. Et nous, en étant des disciples de la vie, donc notre voyage s'articule sur l'humanité. Qu'on a rencontré chez les Maoris, ou quand on était à Kigali, ou partout dans le monde, ou en Inde, ou d'autres pays du monde.
Alors, il y a votre album Boomerang en 2003 qui a été dans les hit-parades mondiaux. Vous avez même eu le prix du meilleur album au BBC World Music Awards. Cette reconnaissance, un peu comme l'a connu Tikkun Jaffa Coli, Alpha Blondie, Touré Kounda ou Mori Konté aussi, c'est une contribution à l'émergence de la culture africaine, à la reconnaissance de la culture africaine?
Oui, c'est en quelque sorte une contribution à l'expansion de la compréhension de la musique africaine.
Ouais.
Parce qu'il est important aussi de comprendre ce que c'est que la musique africaine. La musique africaine, c'est à la base une musique qui est un peu à la source de tout. Rien qu'à voir le jazz, sur le plan technique, quand on voit le blues aussi, c'est partie du jazz. Le jazz, tout le monde sait que c'est la gamme pentatonique qu'on retrouve au Mali.
Les années 70-80 se sont beaucoup inspirés de la musique africaine, d'ailleurs.
Effectivement, et on en parle même sur un autre album qui s'appelle Boomerang, où on dit simplement que le rap est né en Afrique, que le rap, en voyant des groupes américains comme Zulu Nation, Africa Bambaataa, qui voulaient retourner en Afrique, que le rap, c'est en quelque sorte le griotisme moderne.
Alors cet album, Yamatele, vous allez en jouer un extrait. Justement, vous parliez de ce titre Djamono. Alors vous allez prendre votre guitare, on va vous apporter votre guitare, vous allez jouer sur le plateau de la librairie francophone un extrait de Djamono avec ce titre très optimiste, vous allez l'entendre. Titre qui s'adresse à la jeunesse africaine qui est soumise à la pauvreté, mais il y a tant d'espoir et vous le dites, tant qu'il y a du temps, il reste de l'espoir. Voici Daraji Family avec Djamono dans la librairie francophone.
Buriala rega khamni nek samadan makoy deku banya jeng tsagam nek na jafe jafe no tai jiko jamunula wahal jiko jamunula degit jiko jamu jamunula 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 jamono kaw lañu jelle xamuñ no fly di ñu mbele rew yu le sut ak kawé gent bo faté connexion bi dafa dem fakk ñu am pass dañu calé def ma yeb ñatta jëm ñatta yoon lañu jëm yoonu suuf yoonu ndox feug fulé fuñu jaaré kan mo ñu jallé jottu ma né xaw bi yaakar gëna di fokk ñu genn ci lan mo ñu jik ñak paré ci
jamono ci gëna téra di
genn kër gis aduna bi ci écran bu tout ti accès illimité loxo yaangi cliquer sur li défilé actualité nu muy bëggé bu la ben gelaw yo balé
jamono la
waxal
jiko jamono la
te git
Chico jamo jamo nola jamo nola jamo nola jamo nola.
Dara di fan.
Chico jamo nola.
School.
Chico jamo nola.
The git.
Chico jamo jamo nola jamo nola jamo nola jamo nola.
Et la version télé de la librairie francophone, c'est chaque mois sur RTS2, ici RTV au Canada, sur RTBF la 3. Et ce sera ce dimanche à 19h sur TV5 Monde. Une émission à découvrir aussi en vidéo à la demande sur les sites internet de ces chaînes et sur franceinter.fr. L'écrivaine française Véronique Ovaldé est le grand témoin de cette édition télé de février. Mais elle est aussi à la radio avec son dernier roman qui vient de sortir en livre de poche. Véronique Ovaldé est dans la librairie francophone pour son nouveau roman « Personne n'a peur des gens qui sourient » avec un personnage nommé Gloria et ce titre de Van Morrison qui est cité.
Oui, absolument, que son papa l'appelle Gloria alors qu'elle était censée s'appeler Antoinette comme son affreuse grand-mère. Mais au dernier moment, il se rebelle, une fois n'est pas coutume, et il l'appelle Gloria à cause de cette merveilleuse chanson de Van Morrison.
Alors c'est un roman à suspense, Véronique, qui frôle le polar. Un jour, Gloria quitte son appartement en emmenant ses deux filles avec elle. Elle quitte le sud de la France pour le nord. Qu'est-ce qu'elle fuit ?
Ben alors on ne sait pas très bien ce qu'elle fit au départ. Hein. C'est qu'elle se sent menacée. Elle est menacée. Elle part avec tout un tas de choses, du Doliprane, des habits chauds et un Beretta. C'est toujours utile.
Oui.
Elle va chercher ses
une
deux
arme.
Filles. Mmh. Ouais, son adolescente de fille qui est pas du tout partante, comme souvent les adolescents d'ailleurs, qui en général traînent des pieds comme des forçats quand vous voulez les emmener quelque part. Et surtout quand vous voulez les emmener très loin de là où ils habitent, dans une forêt ombreuse et profonde. Et puis elle emmène aussi sa toute petite fille, qui elle est beaucoup plus partante pour l'aventure.
Alors on ne sait rien, c'est vrai, on essaye de deviner, mais ce n'est pas si évident car vous alternez comme ça le récit actuel avec l'histoire de la jeunesse de Gloria. C'est une jeune fille qui a eu une vie plutôt difficile, orpheline très jeune, et elle a dû se construire toute seule.
Oui c'est ça, elle a plus éprouvé la dureté du monde que sa solidarité ou sa douceur. Donc elle s'est construite, voilà, comme elle s'est caparaçonnée, on va dire. Mmh. Elle a quelque chose de plus qu'une guerrière, c'est plutôt quelqu'un, c'est une résistante. Voilà,
ouais,
c'est quelqu'un
ça.
Qui résiste, en fait, Gloria.
Et elle va rencontrer un beau Samuel.
Bah oui, un beau garçon, elle va tomber folle dingue amoureuse.
Dans le bar de son oncle d'adoption, au bord de la Méditerranée, où on ne mange pas des bars, mais des loups, cela dit en passant, car il y a cette erreur dans votre roman. Et cette vie au bord de la mer est assez insulaire, Véronique Ovaldé. Le monde est petit, on s'y ennuie, selon votre personnage.
Oui, on s'y ennuie parce que c'est une ville de périphérie. Vous voyez, c'est, alors je la vois tout à fait à côté de Nice, cette ville qui est Valnargues.
Oui, et que vous avez inventée. Oui.
Oui, j'ai inventé la ville, mais ça ressemble très très fort à des villes qui pourraient être dans les lisières, aux lisières d'une ville comme Nice.
Villefranche,
et,
par exemple.
Oui, Villefranche, par exemple, exactement. Et donc elle s'ennuie évidemment, mais on s'ennuie très souvent là où on est né quand on a 17 ans. On a envie d'aller. Oui, on a envie de tracer la route.
Vous êtes ennuyée, vous ? Vous venez d'où d'ailleurs, Véronique ?
Moi, je ne viens pas du tout du même coin. Je viens de banlieue parisienne, de la Seine-Saint-Denis. Alors, je peux vous dire, j'avais très très envie de quitter cet endroit.
Elle va se poser plein de questions, Gloria, sur l'utilité de cette fuite. Ce n'est peut-être pas pour protéger ses enfants qu'elle fuit.
Alors, on peut se demander ça, en effet, dès le départ. Mais elle a l'impression qu'en fait, elle veut sauver sa peau, bien sûr, mais sauver aussi la peau de sa peau, finalement. Ouais. Elle veut sauver ses enfants. Donc, elle est convaincue, quand même, tant qu'il faut faire quelque chose, là, pour sauver ses gamines et les extraire du danger. Elle a aussi, vous savez, ce côté, les mères sentinelles. Hein, ça m'évoque souvent ça. Vous savez, les mères qui veulent absolument protéger leurs enfants contre la terrible brutalité du monde, la sanglante brutalité du monde. C'est une tentation qu'on a tous. On a des gens qu'on aime, et particulièrement des enfants, on a cette tentation-là, et ça peut être assez dangereux, parce que je crois qu'on peut aussi vite déraper.
Ça parle un peu de vous ou pas ?
Mais pas du tout, qu'est-ce que vous imaginez ? Mais oui, mais vous savez bien comment c'est.
Mais oui,
c'est nous, puissance X.
Et puis la façon dont vous en parlez.
Non, mais oui, Gloria, elle a un côté. Je lisais un petit texte l'autre fois, c'est André Breton qui disait de Frida Kahlo, de l'œuvre de Frida Kahlo, que c'était comme une bombe entourée d'un ruban. Et moi, Gloria, elle m'évoque ça. Donc parfois aussi, je suis une bombe entourée d'un ruban.
Ah ouais. Bon, le sourire dévastateur, on va y revenir. Juste après, trois libraires qui ont lu votre nouveau roman, Véronique Ovalde. Roman dont on ne peut pas dire grand-chose, hein, parce que sinon on dévoile tout. La Belgique, la Martinique et la Suisse, on commence par qui ?
La Belgique, on commence. Voilà, Belgique.
La Belgique, allons-y. Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh bien, moi, je me suis immédiatement attachée à votre magnifique personnage de mère sentinelle, comme vous dites, de mère debout, parce que quelle femme formidable, elle est puissante, elle est inspirante. Et puis, votre livre, je l'ai dévoré. Et j'étais vraiment le cœur au bord de lèvres, presque sans reprendre mon souffle, tellement je redoutais ce qui allait pouvoir lui arriver à Gloria et aux siens. Et vous avez réussi, je trouve, l'équilibre parfait entre la force du contenu et la tension narrative est vraiment jusqu'aux dernières pages.
La Martinique, Anne-Rosine Vosa.
Alors moi, je suis une grande admiratrice de Véronique Ovalde et j'ai complètement été conquise par son dernier roman. Je trouve qu'elle y analyse avec beaucoup de finesse le rapport mère-fille. Et c'est d'une justesse et d'une finesse incroyable. Je trouve que l'écriture de Véronique Ovalde est juste merveilleuse. Les descriptions sont hyper réalistes, ses parenthèses sont pleines d'humour. Et du coup, elle fait une espèce de complicité avec le lecteur. Et moi, j'étais conquise, je suis fan, j'ai adoré.
C'est vrai que vous interpellez le lecteur avec plein de digressions comme ça.
Oui.
Vous osez des choses.
Oui, mais parce que sinon, ça serait presque trop artificiel. M'adresser au lecteur, ça me semble quand même le minimum.
Il y a beaucoup de digressions.
Il y a beaucoup de digressions. Mais j'aime bien les digressions.
Ouais, c'est vrai. Dominique Bressoux, en Suisse.
Ah oui, moi, dès la première phrase, j'ai été prise dans l'urgence. Moi, je sentais le cœur de la protagoniste qui battait. Et d'instinct, je me suis rangée à ses côtés pour protéger ses filles. Mais en fait, j'ai été complètement bluffée par la fin du livre. Et c'est pas faute de lire des thrillers psychologiques. Mais finalement, ce livre, c'est l'illustration parfaite d'une grande vérité. Personne n'est vraiment ce qu'il tient à donner comme image aux autres, avec le sourire ou sans le sourire.
Le sourire. Tiens, parlons-en, Véronique Ovalde. Avec le sourire, donc, qui donne le titre de votre roman, Personne n'a peur des gens qui sourient. C'est Stella, la fille aînée de Gloria, qui constate que quand on ne sourit pas, ça met tout le monde mal à l'aise.
Bah ouais, vous n'avez pas remarqué, c'est assez génial comme expérience. Vous rentrez quelque part, vous rentrez dans un commerce, n'importe où, et vous ne souriez pas. Et en fait, c'est très déboussolant, très déstabilisant. Et l'inverse, c'est vrai. C'est qu'en fait, si vous vous mettez à légèrement sourire dans la rue, mais faites l'expérience, c'est génial. Et les gens vous regardent, tout à coup, si vous étiez une espèce de petit soleil, comme ça, si vous souriez de façon inquiétante, tout le monde va se barrer en courant. Mais sinon, en fait, c'est plutôt agréable et les gens vous mettent à vous sourire aussi. Le sourire, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est comme une arme de poing parce que ça a quelque chose de... ça désarme, ouais, ça neutralise en fait,
ouais, ça, la neutralise,
personne, ouais, ça neutralise, ouais, la personne devant vous. C'est très très pratique.
Et dans ce roman sur la fuite, il y a cette notion d'invisibilité.
Oui.
Donc quand on sourit, on est plus invisible justement que quand on ne sourit pas. Comment échapper aux autres? C'est la question que vous posez aussi. Comment s'extraire du monde et devenir invisible? C'est impossible ça?
Je pense que c'est impossible, ouais. Mais on a aussi, tout à l'heure on parlait de la tentation de vouloir toujours protéger les siens, mais la tentation aussi parfois de refaire complètement sa vie, de recommencer à zéro, de s'isoler en se disant mais comme ça on va être totalement protégé en fait. Et vous savez, c'est Gloria, elle est comme plein de gens autour de nous, elle est toujours prête à subir un siège. Donc elle est toujours, tout est toujours extrêmement bien contrôlé. Le fait d'aller dans une maison au milieu d'une forêt, évidemment, ça c'est un fantasme aussi très enfantin, le fantasme du conte.
Oui, c'est ça. Et on croit que personne va venir nous chercher, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous chercher.
Mais évidemment.
Vous avez déjà essayé de disparaître, Véronique?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Et alors?
Bon, en fait, ça marche pas mal. Je crois que les gens ne me cherchent pas, moi.
Vous avez tenu combien de jours?
Une semaine.
Ah, quand même?
Ouais.
Ah ouais. Personne ne vous a cherché?
Non.
Vous avez inquiété en fait, tout le monde.
Non, c'est l'avantage d'être écrivain. C'est qu'en fait, les gens considèrent que vous êtes un peu branque. Donc du coup, ils se disent, bon, voilà, elle peut... Non, mais elle doit être en train d'écrire quelque part. Donc vous vous rendez compte, personne ne vous cherche.
Mauvaise expérience, donc. Hein.
Non, c'est pas mal. Ça remet les pendules à l'heure.
Le roman de Véronique Ovaldé, Personne n'a peur des gens qui sourient, est paru en poche chez J'ai lu. Dans un instant, la passion du piano d'Éric Emmanuel Schmitt qui jouera dans notre studio. Avant cela, voici le tout nouveau titre de Clara Luciani.
Ma sœur, nous avons des cœurs siamois et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
Jamais dit que ce serait facile.
C'était Clara Luciani avec Ma sœur. Et voici Eric Emmanuel Schmitt dont le roman Madame Bilinska et le secret de Chopin vient de paraître en poche au Livre de Poche.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Eric Emmanuel Schmitt est dans la librairie pour son nouveau roman Madame Bilinska et le secret de Chopin. Est-ce un roman ou un récit personnel? Clarifions tout de suite.
Moi, je suis pas très doué avec les genres. Je suis profondément transgenre quand j'écris. Parce que d'un côté, non, c'est
ça
un...
Ça commence bien, les confidences.
Non, mais d'un côté, c'est un conte initiatique. Oui. En même temps, il a une dimension totalement personnelle puisque ouais. Le héros qui s'appelle Eric Emmanuel, oui, c'est bien moi. Mm-hmm. Et il a un aspect romanesque. Voilà, je sais pas, les textes sortent avec leur singularité. Moi, j'aurais du mal à classer. En tout cas, je l'ai mis dans le cycle de l'invisible, c'est-à-dire toute cette série de textes où il y a Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ouais, l'Enfant ouais. Doué, qui sont des textes où chaque fois est considéré l'apport du spirituel dans nos vies. Et là, ce qui est important pour moi, c'était de marquer que tout d'un coup, le spirituel, ça peut être la musique elle-même.
Voilà. Et il y a un intrus dans cette maison, dans votre maison. Cet intrus, c'est un piano droit sur lequel votre sœur joue.
Oui.
Ça, c'est vrai, ça.
C'est vrai. Ma sœur est une brillante biologiste, mais elle n'est pas devenue une brillante musicienne. Ça se voyait déjà très jeune. Et donc, voilà, moi, je détestais le piano parce que ma sœur le torturait et me torturait les oreilles. Et puis, un jour, effectivement, quelqu'un est venu à la maison, une tante qui s'appelait Tante Aimée. Et elle a joué. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que la lumière changeait, qu'un autre monde surgissait, qu'il y a un ailleurs qui venait s'installer au milieu de nous. C'était Chopin.
On va vous replonger dans les souvenirs avec Emmanuel Schmitt. On a retrouvé une musique que vous adoriez à l'époque. C'est peut-être même un son qui vient de votre famille. Écoutez.
Oui, c'est... Qui n'a pas subi ça?
En plus, il est massacré, écoutez bien.
Oui, bah, je sais, j'entends. Je trouve trop fort le mire. Voilà, la lettre à Élise, conçue par un bourreau baptisé Beethoven.
Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est vrai que Chopin, quand vous l'écoutez, tout bascule. Vous détestez le piano, Eric Emmanuel, et d'un coup, vous tombez en pâmoison, comme ça, devant l'œuvre de Chopin, jouée par votre tante aimée. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Eric Emmanuel, à ce moment-là?
Parce que Chopin, c'est le piano. Chopin n'a pas cherché à faire autre chose que d'écrire pour le piano. Il s'est confiné dans le piano, il en cherchait la poésie, il en cherchait les harmonies, les timbres, les couleurs. Et donc, on peut vraiment dire qu'il a inventé le piano romantique. Et donc, c'était l'essence même du piano qui m'était délivrée. Vous voyez, là, on a entendu Beethoven, son mode d'expression, c'est l'orchestre. Le piano est une marche, un intermédiaire, un tremplin.
Écoutons le vrai piano de Chopin. Chopin, interprété par Lang Lang, que vous connaissez bien sûr, grand pianiste. Il faut apprivoiser Chopin. Chopin est le peintre de la musique, tandis que Bach est un simple dessinateur. Chopin insiste sur les sonorités, les reliefs des timbres, les progressions des harmonies. Il entend chaque instant de chaque son. Il vit la musique avec son corps. C'est ce que je résume de votre livre. Pas vous qui l'écrivez, ça. Mais c'est ça.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Bah, la première fois où j'arrive chez cette Madame Bilinska, j'ai 20 ans. Moi, je fais des études de philosophie à Paris. Mais je veux résoudre le cas Chopin parce que je joue du piano, mais toujours pas bien Chopin. Et je trouve cette professeure, Madame Bilinska, polonaise émigrée à Paris, dont le premier cours consiste à me dire « Étendez-vous sous le piano ». Elle me dit « Chopin a commencé comme ça quand il était petit. Il s'étendait sous le piano de sa mère et il ressentait les vibrations ». Parce que la musique, c'est physique. Alors tout d'un coup, c'est plus avec l'intellect qu'on doit percevoir les choses. Et puis après, elle m'entend jouer, elle m'arrête immédiatement. Et elle me dit, bon, vous ne touchez plus un piano pendant une semaine, mais vous allez tous les matins au jardin du Luxembourg et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Parce qu'elle voulait que j'aie un toucher délicat, que mes coussinets deviennent moelleux, fiables, liés à tout mon corps. Elle me demande aussi d'écouter le silence. Parce que la musique, elle sort du silence et elle y retourne. Elle en est cousue. Même de silence. Et puis elle me demande de faire des ronds dans l'eau pour observer comment un son, c'est-à-dire en l'occurrence une onde, un rond apparaît, se propage et meurt. Bref, ces leçons sont cosmiques et au fond, elles dégrossissent le jeune homme que j'étais, en me rendant délicat, ce qui n'était pas du tout ma caractéristique principale.
Et vous avez parlé sur les rythmes du piano de Chopin. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu.
Non.
Mais avec la musique qu'il y avait derrière, vous étiez comme ça dans le tempo.
C'est ah ouais, on est de plus en plus amis alors, avec Chopin. Je suis content.
Mais elle vous dit que vous êtes balourd.
Mais
vous n'êtes pas assez souple et en plus vous êtes un intellectuel. Elle dit vous faites des notes, pas des sons, vous êtes outillé pour Bach.
Oui, des mathématiques musicales, comme elle dit, normal pour un cérébral. Mais oui, parce que Bach concevait la musique, entre guillemets, indépendamment des sons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'exécute très très bien sur des instruments tout à fait variés, aussi bien au clavecin qu'au piano, qu'au xylophone, etc. etc. Tandis que Chopin, lui, pensait la sonorité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas quitté le piano. Donc c'est pas une preuve de pauvreté, c'est au contraire une preuve d'une musique pensée dans sa totalité, ses couleurs, ses timbres.
Et il faut apprendre à devenir liquide.
Oui.
Comment devient-on liquide, Eric Emmanuel Schmidt?
Eh ben voilà. De toute façon, en art, mais dans beaucoup de choses, vous allez me dire peut-être en sport aussi, il faut à la fois apprendre à se concentrer et à se déconcentrer. Et il faut apprendre à se concentrer parce qu'on doit résoudre des difficultés qui sont intellectuelles et techniques et physiques parfois. Et puis en même temps, une fois qu'on a dépassé ces difficultés, il faut apprendre à se déconcentrer, c'est-à-dire à laisser advenir les choses.
Regardez Eric Emmanuel Schmidt dans notre studio, là au fond.
Un intrus.
Il y a un intrus, un bel intrus. Hein. Piano est,
oui,
quart de queue, je crois,
ouais.
C'est ça. Piano noir. Qu'est-ce qu'on fait? Vous y allez ou pas?
Quelques secondes alors.
Allez-y.
Puis Madame Pilinska n'est pas là, donc
oui, bah allez-y,
elle ne m'engueulera pas.
Allez-y.
Ça, Madame Pilinska m'interdit de jouer pendant 2 semaines.
Oui, c'est ça, exactement. Alors revenez, merci beaucoup Eric Emmanuel Schmidt. C'est vrai que cette Madame Pilinska, elle est un peu particulière parce qu'elle ne veut pas que ses élèves jouent au piano, mais elle vous apprend autre chose.
Elle vous apprend
la vie.
Ben oui, c'est une éducation sentimentale. Parce que ça commence un jour, elle a une porte pour rentrer dans ma vie la plus intime. Elle me dit, bon, vous êtes trop raide. La prochaine fois, revenez après avoir fait l'amour.
Oui.
Oh. Et puis elle précise, attention, hein, pas l'amour solitaire, l'amour avec quelqu'un. Vous avez ça sous la main? Bon. Alors moi, premier de la classe, j'obéis. Le samedi suivant, j'arrive, après avoir bien suivi ses recommandations.
Mmh. Mmh, vous le dites,
et effectivement, je joue un petit peu mieux. Parce que, voilà, il y a une espèce de lassitude exquise qui est en moi. Et elle me dit, oui, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. La prochaine fois, regardez votre partenaire dans les yeux. Et alors là, évidemment, je fais la chose qu'il ne fallait pas faire. Je fais ça, je regarde dans les yeux et je tombe amoureux. Et à ce moment-là, je progresse parce que j'ai consenti à l'amour et je vais pouvoir consentir à la musique. C'est-à-dire, je me suis abandonné. J'ai accepté d'être dépassé par un sentiment plus ample et plus fort que moi, ainsi qu'au piano, d'être dépassé par une émotion, un art plus grand et plus fort que moi.
Il y a de la sensualité, il y a aussi un peu de sexe dans ce livre. On va en parler tout à l'heure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sexe dans cette émission. Avant cela, les 3 libraires se sont penchés sur ce récit, Eric Emmanuel, le Canada, la France et la Belgique. On commence par qui? Ah, le Canada, la France et la Belgique, c'est dur pour vous.
C'est moi qui dois...
Oui.
Ah, on va commencer par le Québec.
Le Québec, Marie-Hélène Vaugeois.
Ben, quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre. Madame Pilinska, c'est une adorable insupportable. Ces leçons nous rappellent qu'il faut savoir regarder le monde avant de pouvoir le vivre, et tant aimée. Quelle femme touchante! Une lecture où l'émotion montait au fil des pages avec une magnifique finale. Vraiment merci.
Bien. La France ou la Belgique?
Eh bien, on va se rapprocher de la France, on va aller en Belgique.
Ah, la France en dernier, hein, Camille Schmitt.
Non, pas en dernier.
Si, si, la France en dernier.
Le pauvre.
Non, je plaisante, c'est très difficile,
c'est
on ne peut pas choisir.
C'est horrible. Vos commentaires.
Non, je suis pervers. Allez, Annick Dor en Belgique.
Oui, alors c'est vrai que moi, il y a d'autres de vos livres que j'ai préférés à celui-ci. Le point positif, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le portrait de cette professeure de musique fantasque et singulière, désagréable et drôle à la fois, et qui a une pédagogie en effet bien à elle. En revanche, j'avoue que les discussions sans fin sur les différences entre entre Chopin ou Liszt, ou bien sur la contribution de George Sand dans l'œuvre de Chopin, ça m'a un petit peu lassée et ça m'a donné, alors j'espère que je ne vais pas vous vexer, mais la désagréable impression d'un un peu d'un étalage de connaissances. Et donc moi, je ne suis pas plus enthousiaste que ça, vous l'aurez compris. Et en même temps, voilà, j'ai une collègue, par exemple, qui a adoré, comme quoi tout ça est très subjectif.
Oui, c'est le principe. Si vous saviez comme je me suis retenu, enfin, j'aimerais ne pas mériter cette critique, mais je peux très bien l'entendre tout à fait, parce que je n'aime pas du tout l'étalage des connaissances, effectivement. J'aime pas les cuistres.
Thomas Osser.
Alors moi, je suis un peu mitigé aussi, hein, voire partagé après la lecture de votre livre. Mais
qu'est-ce qu'ils ont
Éric Emmanuel. Alors d'un côté, je l'ai trouvé un petit peu long à démarrer, puis j'ai pas accroché au côté loufoque et de la pédagogie de Madame Pilinska.
Ça fait 100 pages, hein, quand même. Hein,
pas trop parlé. Oui, mais alors d'un autre côté,
ça démarre vite.
C'est plaisant à lire, Emmanuel. C'est taillé comme une nouvelle, et puis la fin apporte, comme dans un joli conte, un beau soupçon de philosophie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'invite les auditeurs à se faire leur opinion, notamment s'ils ont des lecteurs adolescents autour d'eux, parce qu'à mon avis, ça peut aussi tout à fait coller.
Et c'est un peu coquin, alors pour les ados, oui, bon, ça passe, les enfants un peu moins. C'est un peu coquin parce que cette Madame Pilinska, elle est très particulière. Elle raconte que lorsqu'elle vivait en Pologne, elle avait une amie cantatrice qui ne pouvait atteindre ses aigus qu'à une certaine condition.
Oui, qu'elle ait fait l'amour avant dans sa loge. Voilà. Mais alors ça, j'en connais beaucoup, je ne peux pas vous dire des noms, mais parce que pas à l'antenne, mais oui, bien sûr.
Quoi qu'ils font ça ?
Mais oui.
Pour atteindre les aigus.
Ah ben je vous dis pas parfois l'état des maris quand les carrières s'envolent.
Non mais
je vous jure.
L'état des maris.
Mais si. Mais parce que tout simplement il faut une espèce de détente, de bien-être physique. Il faut dépasser le volontarisme et il est bien connu chez les cantatrices que faire ça avant, ça donne cette espèce de soufflant, de souplesse du sternum et du bas-ventre qui permet à l'aigu d'être moelleux, bien appuyé et en même temps souple.
Oui, vous écrivez, en fait, son mari lui chauffait ses aigus dans sa loge.
Oui, en fait, c'est le contraire des sportifs. On sait très bien que les sportifs ne doivent surtout pas faire ça avant les épreuves. Et dans le chant, pour les cantatrices, c'est plutôt l'inverse.
Dernière considération de cette Madame Pilinska avec les adultes sans éducation qui, selon elle, atteignent le point culminant, on va dire, parce qu'on est diffusé à un horaire de grande écoute, en 7 minutes, et les autres, ceux qui ont une éducation convenable, en 20 minutes. Voilà.
Alors, elle a lu ça dans les journaux, moi aussi d'ailleurs.
Décidément, vous êtes très renseigné.
Et donc, elle s'adresse au héros, c'est-à-dire à moi. Alors, elle dit, vu vos études et vos instructions supérieures, passez-y une bonne heure.
Voilà. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Madame Pilinska, alors.
Pilinska.
Et le secret de Chopin est paru chez Albin Michel. Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec l'artiste belge A.A. et un extrait de L'ignorance et la peur.
On en connaît plein. Des gens comme lui. Moi j'en connais plein. Des gens comme lui, l'ignorance et la peur. L'ignorance et la peur. Danger, gros danger. L'ignorance et la peur. Danger, gros danger. Son ignorance et sa peur. Il s'indigne devant les infos. Il crie ah ouais comme si je ne savais pas. Ça c'est encore à cause des négros. Des bougnous de la droite et de la gauche. Moi j'en connais plein. Des gens comme lui. Moi j'en connais plein. Des gens comme lui, l'ignorance et la peur. L'ignorance et la peur. Danger, gros danger. L'ignorance et la peur. Danger, gros danger. Son ignorance et sa peur. Quand la vie te met KO sur le tatami,
La vérité est dure à avaler. Si tout le monde ici se met à pâlir, on ne va jamais retrouver le sommeil.
C'était AA avec l'ignorance et la peur, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas la version télé de l'émission ce dimanche à 19h sur TV5 Monde et sur tv5monde.com. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Clément Vuillet. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et notre stagiaire collégien Mathéo Girard en France. Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, Natik Raimi, Paula Jacques, le groupe Trio pour ses 25 ans. Il jouera d'ailleurs dans notre studio et le grand Bartabas. Bonne semaine, bon week-end à tous.